Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 16 août 2024. Au Burundi, le président gracie la journaliste Floriane Irangabiye, condamnée à 10 ans de prison. Au Kenya, le gouvernement dénonce des propos du nonce apostolique sur les manifestations. Les jeunes leaders du Mandela Fellowship, plus connus sous le nom de Yali, sont en visite à Washington dans le cadre de la 11e édition de ce programme du gouvernement américain.
Le travail que je suis en train de faire, c'est d'améliorer le transport entre les zones commerciales beaucoup plus pour le rendre un peu plus fluide. Et ce que je compte emmener dans le pays, c'est exactement cela, comment fluidifier le transport par des infrastructures meilleures.
Jonathan Bekanga Losangania, ingénieur en construction à RDC, va partager son expérience dans la partie magazine. Les négociations de Doha sur un cessez-le-feu à Gaza reprendront la semaine prochaine. L'Ukraine dit vouloir persuader la Russie d'entamer des négociations équitables. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Co pour l'instant le journal. Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a gracié la journaliste Floriane Irangabiye, condamnée en janvier 2023 à 10 ans de prison. Elle était accusée d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Les détails avec Nani Talani.
Selon un décret daté du 14 août publié sur X, Floriane Irangabiye bénéficie avec effet immédiat de la remise totale des peines auxquelles elle avait été condamnée, soit 10 ans de prison et $500 d'amende. Dans un message sur X, l'association Action chrétienne pour l'abolition de la torture salue cette décision qui, selon elle, met fin à un emprisonnement illégal et injustifié. Elle encourage le président Évariste Ndayishimiye à poursuivre sur cette voie en libérant toutes les personnes emprisonnées injustement. Floriane Irangabiye, journaliste burundaise vivant au Rwanda, avait été arrêtée en août 2022 alors qu'elle était en visite dans le pays. Ses peines avaient été prononcées en janvier 2023 et confirmées en appel en mai 2023. Elles avaient été dénoncées par des ONG de défense des droits humains et de la liberté de la presse. Le Burundi occupe le 108e rang sur 180 du classement sur la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Malgré quelques signaux favorables envoyés par le président, RSF pointe du doigt un environnement qui reste encore très hostile pour l'exercice du journalisme.
Un tribunal zimbabwéen a refusé aujourd'hui de libérer sous caution trois militants d'un groupe de défense des droits humains qui font partie des dizaines de personnes emprisonnées à l'approche d'un sommet régional ce week-end à Harare. Le militant Namata Ekokweza, le responsable syndical Robson Chere et l'ancien conseiller municipal d'Harare Samuel Gwenzi ont été arrêtés le 31 juillet. Des experts indépendants de l'ONU ont appelé jeudi le Zimbabwe à libérer les trois militants pro-démocratie détenus arbitrairement depuis deux semaines avant leur apparition devant un tribunal aujourd'hui. Au Kenya, le gouvernement dénonce ce qu'il appelle des déclarations partiales, non diplomatiques et incendiaires du nonce apostolique au sujet des violentes manifestations antigouvernementales. Dans une homélie, le nonce avait appelé au changement en évoquant des meurtres de civils. Alexandrine Ologon.
Dans un courrier daté du 12 août, le ministère des Affaires étrangères qualifie les propos de l'archevêque Hubertus Van Meegen de conduite répréhensible et indigne d'un membre éminent du corps diplomatique. Le nonce s'était exprimé le 29 juin dans une homélie à Nairobi, quatre jours après que la contestation contre un projet de budget instaurant de nouvelles taxes a viré au bain de sang quand la police a tiré à balles réelles sur des manifestants prenant d'assaut le Parlement. Il a évoqué un appareil d'État qui tire à volonté et des influenceurs et des dirigeants étudiants enlevés, torturés et humiliés, jetés dans les fosses sombres et sales de Nairobi. « Les choses doivent changer », avait-il ajouté. Le ministère kényan des Affaires étrangères juge ces propos regrettables, non diplomatiques et incendiaires, tenus à un moment de grave crise nationale. Selon des organisations de défense des droits humains, au moins 60 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres sont portées disparues depuis le début de ce mouvement, né en juin, au sein de la jeunesse.
Au Soudan, 80 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés dans une attaque des paramilitaires dans un village de l'État de Sennar, dans le sud-est du pays. Les deux belligérants ont été accusés de crimes de guerre pour avoir délibérément tuer des civils et bloquer l'aide humanitaire. Toujours au Soudan, l'OMS signale plus de 300 décès dus au choléra. Margaret Harris, responsable de l'OMS, a déclaré lors d'une conférence de presse que 11 327 cas de choléra et 316 décès avaient été signalés et que les infections par la dengue et la méningite étaient également en augmentation. L'épidémie de Mpox a touché 39 personnes au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Depuis le début de l'année, sans aucun mort, ont annoncé les autorités sanitaires du pays. La forte augmentation des cas liés à cette épidémie a poussé l'Organisation mondiale de la santé à déclencher mercredi son niveau d'alerte le plus élevé au niveau international.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les discussions sur un cessez-le-feu et une libération des otages à Gaza doivent reprendre au Caire la semaine prochaine autour d'une nouvelle proposition américaine, selon un communiqué commun aujourd'hui des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Jacques Aristide.
Les trois pays jugent que les deux journées de pourparlers qui viennent de se tenir à Doha ont été constructives et se sont tenues dans une atmosphère positive. Washington a soumis ce vendredi une nouvelle proposition de compromis soutenue par l'Égypte et le Qatar afin de combler les lacunes restantes qui portent sur la mise en œuvre d'un accord par Israël et le mouvement palestinien Hamas, selon le communiqué diffusé par la Maison-Blanche. Cette proposition américaine s'appuie sur une feuille de route présentée par le président Joe Biden fin mai qui prévoit plusieurs phases pour la cessation des hostilités et la libération des otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre en Israël. De hauts responsables de nos gouvernements doivent se retrouver au Caire avant la fin de la semaine prochaine avec l'objectif de conclure un accord, explique le communiqué. La voie est désormais tracée pour un tel résultat afin de sauver des vies, soulager la population de Gaza et faire redescendre les tensions régionales, estiment les trois pays. Le Hamas a toutefois rejeté les nouvelles conditions d'Israël dans la proposition des médiateurs. Nous n'accepterons rien de moins qu'un cessez-le-feu complet, un retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza et le retour à des déplacés, un accord d'échange d'otages contre des prisonniers, a déclaré l'un des cadres du Hamas sous le couvert de l'anonymat.
Alors que les combats se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie, Kiev a indiqué que son offensive en territoire russe dans la région de Koursk vise à forcer Moscou à des négociations équitables. Les forces ukrainiennes ont attaqué cette zone frontalière le 6 août dans une offensive qui a surpris l'armée russe progressant plus au sud dans le Donbass. Nathalie Barge.
Kiev a déclaré que son assaut en Russie vise à obliger Moscou à retirer des troupes d'autres parties du front ou à créer une zone tampon pour mettre fin aux bombardements dans les territoires ukrainiens frontaliers. Kiev veut aussi se servir des territoires russes conquis comme monnaie d'échange lors de possibles négociations avec le Kremlin. Le conseiller du président Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, a déclaré, je cite, « L'outil militaire est utilisé objectivement pour persuader la Russie d'entrer dans un processus de négociations équitables. » Assurant que Kiev n'a pas l'intention d'occuper une partie du territoire russe, il a dit qu'il faut trouver un moyen d'asseoir la Russie de l'autre côté de la table dans le cas de potentielles négociations. Mardi, un diplomate ukrainien a appelé Moscou à accepter une paix juste. Volodymyr Zelensky a dit vouloir élaborer d'ici à novembre un plan qui servirait de base à un sommet pour la paix auquel le Kremlin doit être convié. Il répète qu'une paix ne peut être possible que si l'armée russe se retire complètement de ses territoires, y compris de la péninsule de Crimée annexée en 2014. Vladimir Poutine exige que Kiev cède les régions annexées et renonce à adhérer à l'OTAN. Les négociations sont bloquées depuis le printemps 2022.
En France, le président Emmanuel Macron a convié les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et les chefs de partis représentés au Parlement le 23 août prochain en prévision de la nomination d'un Premier ministre, a annoncé ce vendredi l'Élysée. Après la parenthèse olympique, les incertitudes quant à l'avenir politique d'un pays sans gouvernement auraient fait surface après la dissolution par le chef de l'État de l'Assemblée nationale du 9 juin et les élections législatives des 30 et 7 juillet, à l'issue desquelles la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire a obtenu le plus grand nombre d'élus devant la majorité présidentielle et le Rassemblement national. Et puis en Thaïlande, sachez que Pattanchaon Shinawatra est devenue ce vendredi la première ministre à seulement 37 ans. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le programme Yali du gouvernement américain visant à former des jeunes Africains au leadership a ouvert les inscriptions pour 2025. Les candidats de 25 à 35 ans doivent prouver leur engagement envers le service public ou communautaire. Ils doivent s'engager à retourner en Afrique pour mettre leurs compétences au service du développement. Les formations se déroulent dans des universités et autres institutions américaines et les boursiers participent à un sommet à Washington. Le gouvernement rwandais a signé un accord avec l'entreprise américaine Nano Nuclear Energy pour la construction de petits réacteurs nucléaires. La construction d'un réacteur test interviendra dans les prochaines années. L'an dernier, Kigali a signé un accord avec une entreprise allemande pour construire un réacteur nucléaire civil expérimental après un autre accord avec l'agence russe Rosatom en 2019. Perseus Mining a acquis 13,82% d'intérêt dans la société minière Predictive Discovery, propriétaire du projet aurifère Bankan en Guinée. La compagnie australienne est déjà présente en Côte d'Ivoire et au Ghana. Perseus a pris cette année le contrôle du projet aurifère Nyanzaga qui entrera en production en 2027. Selon l'étude de faisabilité, un investissement de 456 millions de dollars est nécessaire pour construire la mine d'or.
Passe maintenant au sport avec Eric Panirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Une piste de ski africaine insolite dans les montagnes du Lesotho.
Le domaine Afriski a repris ses activités cette année après avoir été contraint de fermer l'an dernier en raison de coupures d'électricité et autres problèmes logistiques. Le site ouvert en 2002 dans les montagnes Malouti dans le nord-est, peu en l'absence de chute de neige, à l'exception de quelques semaines par an, fonctionnait grâce aux canons et températures négatives. Les moniteurs viennent de France et des États-Unis, mais Afriski cible des clients locaux. Pour eux, c'est moins cher que d'aller en Europe, explique la gérante.
En Espagne, 4 interpellations après l'agression du père du footballeur, Lamine Yamal.
4 personnes ont été arrêtées après l'attaque au couteau du père, désormais hors de danger de la jeune star du football espagnol, Lamine Yamal, mercredi soir en Catalogne. Le père du footballeur est devenu célèbre pendant l'Euro 2024 que Yamal a remporté avec l'Espagne grâce à ses posts sur les réseaux sociaux et à ses apparitions médiatiques. Les enquêteurs doivent entendre la victime ainsi que les témoins afin de déterminer les circonstances de cette attaque, a indiqué la police.
Italie, l'Inter Suisse a lancé, l'AC Milan et la Juventus pour se relancer.
2 mois après la piteuse prestation de sa nationale à l'Euro 2024, l'Italie retrouve avec appétit la Serie A à partir de demain samedi avec un grand favori, l'Inter et 2 rivaux, l'AS Milan et la Juventus Turin, profondément remaniés après un dernier exercice décevant. Si la nationale est éliminée dès les 8e de finale de l'Euro en Allemagne par la Suisse 2-0, naguère fait honneur à son titre de championne d'Europe conquis en 2021, l'Inter ne devrait pas connaître pareille mésaventure. Avec l'Argentin et capitaine Lautaro Martinez, vainqueur cet été de la Copa América, et le Français Marcus Thuram, auteur d'une première saison convaincante en Serie A, le club Nerazzurro a conservé l'un des duos les plus prolifiques d'Europe.
Pochettino vers le poste de sélectionneur des États-Unis selon les médias.
L'Argentin Mauricio Pochettino a trouvé un accord avec la direction de la Fédération américaine de football pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe des États-Unis, indiquent plusieurs médias. The Athletic et ESPN citent des sources anonymes pour affirmer que Pochettino, qui a quitté Chelsea en mai, a accepté de prendre en main les destinées du 11 américain. À 52 ans, Pochettino serait donc chargé de mener les États-Unis à la Coupe du Monde 2026 qu'ils organisent conjointement avec le Mexique et le Canada. Avant Chelsea, il a notamment entraîné le Paris Saint-Germain et Tottenham. Selon ces informations, un accord a été conclu avec le directeur technique de la Fédération américaine. Mais aucun contrat n'a encore été signé. L'accord doit obtenir l'aval du conseil d'administration de la fédération. Selon ESPN, Pochettino pourrait prendre ses fonctions avant un match amical contre le Canada le 7 septembre à Kansas City.
Page de sport VO Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Plusieurs jeunes Africains participent présentement ici à Washington et ailleurs aux États-Unis au Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, YALI, le programme du gouvernement américain visant à renforcer leurs capacités et l'échange d'expériences en matière de leadership dans divers domaines. Eddie Sango a interviewé l'un d'eux dans nos studios, Jonathan Bekanga Lusangania, ingénieur en construction qui travaille à l'Office des voies de décès agricoles à Kolwezi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo.
J'ai été sélectionné pour le travail que l'on fait dans les milieux ruraux, notamment la construction des infrastructures publiques et beaucoup plus précisément les routes de desserte agricole. Vous savez combien est-ce que ces routes sont importantes pour l'alimentation et aussi surtout pour le commerce des milieux ruraux, pour maintenir la vie et aussi surtout pour les échanges commerciaux entre les centres ruraux et les centres urbains et périurbains.
Et quel est l'impact de ce que vous faites dans votre pays ou en Afrique?
Oui, alors on sait déjà qu'en RDC, la plupart de populations se trouvent dans les milieux ruraux et ces populations ont un problème qui est d'accès par rapport aux routes. Et ils ne peuvent, ou plutôt, ils n'arrivent pas à faire simplement leur commerce de manière habituelle, dû notamment à l'état des routes qui sont pour la plupart délabrées.
Vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites exactement? J'ai appris que vous faites un stage. Qu'est-ce que vous apprenez et qu'est-ce que vous allez ramener au pays?
Exactement. Alors, je suis en train de travailler avec le District Department of Transportation, qui est DDOT, ici à Washington DC. Le travail que je suis en train de faire, c'est améliorer le transport entre les zones commerciales, beaucoup plus, pour le rendre un peu plus fluide. Et ce que je compte ramener dans le pays, c'est exactement cela, comment fluidifier le transport par des infrastructures meilleures.
Les embouteillages sont, disons, maladifs au Congo. Ah, c'est un problème même, surtout dans les villes comme Kinshasa, où c'est très difficile. Qu'est-ce que vous avez appris pour y amener comme solution là?
Les problèmes d'embouteillage, il n'y en a pas qu'à Kinshasa. Il y en a dans plusieurs pays d'Afrique. Et c'est malheureusement une épidémie qu'on est en train d'observer, malheureusement, de manière impuissante. Pourquoi? Parce que soit il n'y a pas de volonté, ou encore on se dit par où commencer. Je suis en train de travailler sur notamment un autre projet, celui qui est de Bus Priority System, avec le DDOT Department, comme je viens de vous le dire. Et c'est comment rendre le transport de masse beaucoup plus fluide et simple. Et ceci est non seulement en train de réduire le temps de transport d'un point à un autre, mais aussi c'est en train de rendre le trafic beaucoup plus simple.
Vous travaillez plutôt dans les domaines des constructions des routes, mais qu'est-ce que ce que vous apprenez ici pourra améliorer ou avoir comme impact au pays?
En effet, pour aussi fort que mon travail est dans le domaine de construction de routes, on s'applique surtout sur le développement des milieux ruraux. Et ce développement tient compte de la régularité de transport et aussi donc la fréquence. Et ce que ça va ajouter notamment et que je peux implémenter à mon retour sur le continent, beaucoup plus précisément au Lualaba, c'est donc comment être beaucoup plus efficace dans la construction des routes et aussi surtout être large dans notre manière de penser transport.
Jonathan Bekanga Lusangania du Mandela Fellowship.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le Zimbabwe accueille demain samedi le sommet annuel de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui regroupe 16 pays. À cette occasion, les organisations de défense des droits de l'homme ont demandé à la SADC de se pencher sur la situation des droits humains dans le pays, notamment les arrestations d'opposants qui ont commencé à la mi-juin. Un reportage de Columbus Mavunga à Harare, le récit est de Dilidiko.
En prévision du sommet de la SADC de samedi, des équipes ont pour la première fois depuis des années réparé la plupart des principales rues de Harare et en ont même construit de nouvelles. Mais sur le terrain et dans les airs, la police et l'armée ont intensifié leur présence à l'approche de l'événement. Kinashe Shinop Fukutwa de l'organisation Zimbabwe Lawyers for Human Rights affirme que depuis la mi-juin, une vague d'arrestations a touché une centaine de militants pro-démocratie dans tout le pays.
Les personnes arrêtées ont fait l'objet d'une détention et d'une incarcération prolongée. Et plus récemment, nous avons assisté à l'arrestation de 4 personnes à l'aéroport Robert Mugabe qui ont été forcées de descendre d'un avion et détenues au secret sans pouvoir consulter leurs avocats. Elles ont été soumises à la torture et à d'autres traitements inhumains et dégradants.
La Commission des droits de l'homme du Zimbabwe, financée par le gouvernement, a fait savoir dans un communiqué qu'elle enquête sur des informations faisant état de tortures infligées aux militants par des agents de sécurité de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Kazembe Kazembe, affirme que les personnes ont été arrêtées pour avoir protesté illégalement contre la longue détention de militants arrêtés fin juin pour avoir tenu une réunion illégale. Il affirme également que les personnes arrêtées avaient l'intention d'organiser des manifestations au site du sommet de la SADC.
Il est clair que les organisateurs cherchent à provoquer une réponse musclée de la part du gouvernement qui, pense-t-il, attirerait l'attention du monde entier et mettrait le Zimbabwe sous les feux de la rampe. Les tentatives visant à rendre le pays ingouvernable recevront des réponses appropriées et que ceux qui cherchent à créer une atmosphère de découragement parmi les citoyens pacifiques soient avertis que de tels agissements ne seront pas tolérés.
L'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a appelé les dirigeants de la SADC à se pencher sur la question des violations des droits de l'homme commises par les autorités zimbabwéennes. Le sommet commence le 17 août à Harare et le Zimbabwe assumera la présidence de la SADC pour la première fois.
Au Cameroun, certains enfants passent des vacances d'été à vendre des marchandises dans la rue pour générer des revenus pour leur famille. Mais le gouvernement met en garde les parents contre le travail des enfants et l'exposition des mineurs à des dangers. Le reportage de Njozika Danatua Boya est relaté par Alexandre Nolognon.
Le coût de la vie a augmenté au Cameroun et les 10 membres de la famille de Chiroubé Stella qui dépendent d'elle pour survivre, en subissent les conséquences. Pour alléger le fardeau, elle envoie ses enfants adolescents dans les rues pour vendre des marchandises pendant les vacances d'été.
Ils doivent aller vendre à la sauvette pour que nous puissions subvenir à nos besoins domestiques, peut-être nos vêtements, notre nourriture et nos problèmes de santé, parce que parfois nous tombons malades. Les choses sont très chères aujourd'hui dans notre pays.
Malgré ses efforts pour subvenir aux besoins de sa famille, Stella s'inquiète des risques encourus par ses enfants lorsqu'ils vendent dans la rue.
Je prie Dieu de protéger mes enfants parce que l'extérieur est mauvais. Je les mets en garde. Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera dehors. Nous avons le consentement et nous les mettons en garde. Vous ne devriez pas rester dehors tard.
Le chômage et la pauvreté poussent de nombreux parents camerounais à faire travailler leurs enfants, selon un rapport 2023 du Conseil danois pour les réfugiés. Le rapport souligne que les filles qui vendent des marchandises dans les quartiers sont particulièrement exposées à des dangers tels que le harcèlement sexuel et l'enlèvement. En réponse, le gouvernement camerounais intervient en offrant aux maires d'autres sources de revenus grâce à des programmes de formation professionnelle tels que l'informatique, la couture et la restauration. Etteki Stella Dopgima, du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.
Le centre d'autonomisation des femmes est toujours là pour les autonomiser et les rendre économiquement viables afin qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants sans dépendre des revenus que certains de ces enfants peuvent leur apporter.
Certains parents envoient leurs enfants acquérir d'autres compétences plutôt que de se lancer dans des activités risquées. La Volcanic Warrior Sports and Recreational Academy propose des cours gratuits et payants d'informatique, de basketball et de musique entre autres. Ifosé Enil Mbela est le fondateur de l'académie.
L'éducation ne se limite pas aux cours théoriques. L'éducation va de pair avec ce que nous appelons les activités périscolaires, comme nous pouvons les nommer, qui sont un outil vital aujourd'hui.
Les autorités gouvernementales, comme Stella, affirment que les initiatives apportant un soutien économique aux parents sont essentielles pour prévenir le travail des enfants. Elle a également indiqué qu'il propose une formation à l'équipement industriel afin que les parents puissent conserver leur emploi et disposer d'un revenu stable.
Nous faisons en sorte qu'il soit durable parce que nous voulons que les femmes soient économiquement indépendantes afin qu'elles ne dépendent pas des autres.
Les programmes de formation gratuits financés par le gouvernement sont importants dans la sous-préfecture de Bouéa, où plus de 70 femmes sont diplômées chaque année du programme d'autonomisation des femmes, dont beaucoup reçoivent des équipements et un capital de démarrage pour obtenir de meilleurs emplois.
Deux rapports publiés cette semaine tirent la sonnette d'alarme sur l'augmentation des efforts visant à perturber l'élection présidentielle américaine. Ils affirment que la manipulation de l'information, la violence politique et l'intimidation sont en hausse. Reportage Véronique Balderas-Iglesias de la VOA, récit Nanit Alani.
Les électeurs américains sont de plus en plus ciblés par des acteurs nationaux qui diffusent de fausses informations avant l'élection présidentielle de 2024. C'est ce qui ressort d'un rapport sur les vulnérabilités électorales publié par l'Organisation de défense des droits de l'homme, Freedom House. Kian Vestenson est analyste principal à Freedom House. Il s'est exprimé via Skype.
Les gens ici aux États-Unis font circuler des théories de complot et des informations trompeuses sur la politique. Quelque 70% des républicains et des électeurs qui penchent pour le parti républicain ont été séduits par la théorie du complot selon laquelle les résultats de l'élection présidentielle de 2020 étaient illégitimes. Aujourd'hui, à l'approche de l'élection de 2024, nous avons vu ce récit émerger et dominer.
Le chercheur note également une augmentation de l'intimidation et du harcèlement en ligne des responsables électoraux ainsi que de la violence politique.
Nous avons vu des candidats subir des attaques directes, y compris bien sûr la tentative d'assassinat contre l'ancien président Trump. Les discours de haine et les crimes de haine contre les groupes marginalisés sont en hausse.
Si l'infrastructure électorale elle-même reste protégée, les cyberattaques sont une source d'inquiétude selon Kian Vestenson.
Les cibles les plus vulnérables sont les campagnes et les sites web qui fournissent aux gens des informations sur le vote lui-même.
Le FBI enquête actuellement sur des tentatives présumées de piratage iranienne visant les campagnes de Donald Trump et de Biden-Harris. La société de cybersécurité Recorded Future fait également état d'une augmentation des opérations d'influence malveillante menées par l'Iran, la Russie et la Chine. Elles incluent l'utilisation de l'intelligence artificielle pour développer des articles inauthentiques qui sont ensuite publiés sur des sites de fausses nouvelles qui ressemblent à des médias légitimes. Sean Miner, chef d'équipe de la société de cybersécurité Recorded Future, via Skype.
Introduire un contenu biaisé qui a une orientation politique ou un penchant politique dans une direction spécifique basée sur les objectifs géopolitiques d'un gouvernement donné et comment ces objectifs géopolitiques correspondent à leurs intérêts avec le candidat qui finit par gagner l'élection.
Quelle est l'efficacité de ces efforts? Sean Miner, de Recorded Future.
Pour l'instant, nous ne disposons pas de données concrètes permettant d'affirmer que ces opérations ont eu un impact sur les résultats de l'élection.
Les électeurs américains sont néanmoins encouragés à rester vigilants et à se méfier des fautes de grammaire ou d'orthographe trouvées dans les articles et les domaines de sites web qu'ils rencontrent qui pourraient révéler une tentative d'usurpation d'identité.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.